Donc, c'est avec joie que nous sommes ici à la Radio Maria, justement pour faire ce partage de ce que nous vivons, de notre foi, l'exhortation, joie de la mission, témoignage. Aujourd'hui, j'ai la joie donc de recevoir Daniel Ramos. Daniel, on va se tutoyer déjà parce qu'ici, on est à la maison et parce que nous sommes frères de communauté, donc c'est bien chez nous. Donc, Daniel Ramos, tu es né au Brésil, à Fortaleza, en 78. Le Seigneur t'a appelé en 97 à vivre comme communauté de vie Shalom. Depuis 2003, tu es ici à Toulon, dans la mission où tu es actuellement responsable local. Tu es marié à Luciane depuis 2011. Tu as aussi fait partie du conseil général de la communauté Shalom pendant un temps et tu as un amour particulier pour les saints. Ils sont tes frères plus âgés dans la foi et tu crois que leur vie et leur spiritualité sont essentielles pour soutenir des vocations mûres dans l'Église. Alors tout ça, c'est tiré d'un livre que j'ai en main, mais en tant que frère, je peux aussi dire que tu es un amoureux de Jésus. Et donc, c'est pour ça qu'on est là cet après-midi, pour que tu puisses nous partager un petit peu de cette expérience d'amour que tu as eue un jour et qui a changé ta vie. Alors, comment ça s'est passé, Daniel?
Oui, tout à fait, Vinicius. Bonjour à chacun qui nous écoute. Et c'est une joie de pouvoir parler de celui de qui on est amoureux, n'est-ce pas? Celui ou celle. Et dans ce cadre, aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Quand j'avais 13 ans, j'étais au début de l'adolescence. Et il y a eu un moment difficile dans ma famille, dans le début des années 90. Mon quatrième frère était né. Il est né trisomique et avec une très grave maladie cardiaque. Et à ce moment-là, notre famille allait à la messe de temps en temps et plus souvent possible, mais c'était plutôt une tradition. Nous n'avions pas à ce moment une vraie amitié avec Jésus. C'était la vie religieuse dans le sens d'une certaine tradition qu'on avait reçue de nos parents. Lorsque la souffrance a frappé avec force donc à la porte de notre famille, je suis le fils aîné de cette famille, et donc on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu pour mériter? Donc l'image qu'on avait de Dieu, c'est quelqu'un qui punit les mauvais et qui s'arrange pour que ça marche à peu près avec ceux qui essayent de faire le bien. C'était l'image qu'on avait de Dieu. Et à ce moment-là, mes parents ont reçu une invitation pour participer à un week-end charismatique d'une communauté au Brésil. Et à ce moment-là, au retour de ce week-end, moi j'avais 13 ans, j'ai tout de suite noté qu'ils avaient complètement changé. En 2 jours, ils étaient angoissés tout le temps. Ma mère fumait tout le temps parce qu'elle ne pouvait pas avec la situation du bébé malade. Et ils se disputaient, ils s'entendaient bien jusqu'alors. Et face à la souffrance, ils ne s'entendaient plus. C'était vraiment une période de tension, de douleur intérieure et extérieure de voir son propre fils dans cet état. Et tout d'un coup, au bout de 2 jours, il revient de cette retraite spirituelle. Le visage détendu, la joie dans les yeux. Et je me souviens de ma mère qui me disait « J'ai vu le Saint-Esprit ». Alors, je croyais que c'était une colombe qui descendait carrément. Et je me suis dit « Moi, je veux voir aussi des choses ». Mais bien sûr...
Essayer de voir Dieu, ça peut toucher le cœur d'un enfant, non?
Oui, tout à fait.
Son imagination aussi.
J'imaginais pas qu'on pouvait le voir en ce monde. Et elle a dit carrément qu'avec les yeux du cœur, elle l'avait rencontré, il lui avait parlé, elle l'avait écouté dans son cœur, et toute sa vie a reçu un nouveau sens. Elle a été imbibée de cet amour infini. Et c'était pas, elle ne m'a pas invité en disant « il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu ailles à l'église », etc. Non, elle m'a simplement dit ce qu'elle a vécu, et cela m'a touché. Et j'ai vécu vivre quelque chose qui ressemble, une expérience personnelle. Je ne voulais pas aller parce que tout le monde allait ou parce que c'était bien qu'on y aille, Mais je voulais connaître Dieu. Je voulais, comme disait Thérèse d'Avila, voir Dieu. Et
Alors,
on...
vous l'avez vu? Bon, tu l'as vu.
Je vois en ce moment même. Et ce que j'ai découvert quelques jours plus tard, quand j'ai participé à une retraite pour les jeunes, c'est justement qu'il est plus intime de nous que nous-mêmes. C'est un amour tellement fort, immense, grand, infini, inconditionnel, parfait, constant. On a besoin de constance dans notre vie, n'est-ce pas? Et je sentais que même si moi je chutais, même si moi je tombais, cet amour ne changeait pas. Il comprenait de qui j'étais, de quoi j'étais fait. Il me refaisait, il me recréait chaque fois que je tombais et il me mettait debout. T'es quelqu'un qui est pour moi. J'ai découvert à cet âge que Dieu est pour moi et que le christianisme, c'est la seule religion. Et avant de parler de tout ce qu'on doit faire pour Dieu, il nous parle de tout ce que Dieu a fait pour nous. En venant en ce monde, en vivant une vie humaine comme nous, à l'exception du péché, parce que le péché n'est pas humain, c'est ce qui défigure l'humanité. Et en incarnant notre vie jusqu'au bout, en incarnant les humbles souffrances de la vie quotidienne, et jusqu'au plus grave en mourant sur la croix. Un Dieu qui s'importe avec nous. J'ai découvert ça, une expérience profonde intérieure et que nous pouvions parler avec ce Dieu et l'écouter. Il nous parle, il est présent dans notre cœur, dans notre vie. Bien sûr, la vision dont on parle ici, ce n'est pas la vision de chair pour l'instant. Nous le verrons tel qu'il est au ciel, mais c'est une vision plus profonde dans un certain sens. Parce que moi, je vous vois et je vois des personnes à côté du studio. Mais est-ce que je les vois réellement? Il y en a que je ne connais pas le nom, je ne sais pas ce qu'ils pensent en ce moment. Donc on voit leur corps. Mais le voir dont il est question ici, c'est vraiment en profondeur, voir le cœur, voir l'âme. Je me suis senti aimé tel que j'étais. Je me souviens qu'en quittant cette retraite, je marchais dans la rue, je voyais les arbres comme si je les voyais pour la première fois. J'avais été tellement inondé d'une vie nouvelle que même le monde me paraissait nouveau. On reçoit même un nouveau regard sur le monde. C'était vraiment un bonheur indicible. Et toute ma vie a été marquée par ce week-end-là du 24 et 25 mars 92. Je me souviens très bien.
Ta vie a été marquée. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie depuis ce jour-là?
Quand je parle aux jeunes, j'utilise cette comparaison, mais je crois qu'elle est finalement très parlante pour n'importe quel adulte. Et lorsqu'on vit sans être rempli de l'amour de Dieu, c'est comme si on se promenait dans la 5e avenue à New York et on se sentait tout petit côté de ces gratte-ciel et on se sentait vraiment une fourmi. Et ensuite, la personne peut prendre un hélicoptère et traverser la ville de New York. Les grands immeubles continuent à leur taille normale. La personne, elle les voit d'en haut. Elle ne se sent plus écrasée. Et c'est un peu l'expérience qu'on fait. Lorsqu'on vit une vie sans l'amour de Dieu, les problèmes, c'est comme ces gratte-ciel. Ils sont énormes. La vie, les défis, ils sont au-dessus de nos forces. Et c'est tout à fait la réalité parce que nous sommes des êtres finis et nous ne contrôlons pas tout. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Et ensuite, lorsqu'on reçoit l'amour de Dieu, on reçoit un regard de foi aussi sur le monde, la vie, les problèmes eux-mêmes. Ils continuent parfois là, ils vont peut-être pas changer tout de suite, mais nous, on les voit sous un autre angle, sous l'optique du Seigneur qui partage avec nous son regard pascal parce que c'est un regard qui intègre la croix et la résurrection, la souffrance et la victoire sur le mal. Tout est inclus dans ce regard que Dieu nous donne de foi. Donc nous pouvons vivre même des plus atroces souffrances sans en être écrasés, comme disait Saint Paul. Nous sommes persécutés, mais pas détruits. Nous sommes, enfin, il utilise des termes très, très parlants. On nous met contre le mur pour utiliser des paroles d'aujourd'hui, mais nous ne sommes pas écrasés. Donc, c'est vrai, il y a la dimension de la persécution, de la souffrance, de la douleur, mais rien de cela n'est capable de nous anéantir désormais.
Tu as parlé quelquefois sur la souffrance et de cette manière chrétienne de vivre la souffrance. Mais aussi, après avoir eu cette expérience avec l'amour de Dieu, tu as ressenti un appel particulier de donner ta vie. Comment ça s'est passé?
Alors, tout de suite après cette retraite, j'ai commencé à participer à un groupe de prière pour les jeunes. Et une fois par semaine, dans ce groupe de prière, on recevait un temps d'enseignement et on louait le Seigneur, on écoutait le Seigneur ensemble. On se donnait rendez-vous pour servir le Seigneur dans telle ou telle action d'évangélisation. Et au fil des années, je commençais à ressentir que j'étais fait pour cela, pour donner toute ma vie pour l'évangélisation, pour la prière, pour la vie fraternelle. Je me sentais très heureux de fréquenter les jeunes de mon âge, de se donner rendez-vous pour évangéliser ou alors tout simplement pour parler de Dieu, pour parler de nos expériences, pour parler de nos vies, de nos projets et aussi de connaître le Seigneur plus en plus dans la prière personnelle de chaque jour. Et c'est alors que j'ai découvert qu'il était possible de faire une année vocationnelle, c'est-à-dire une année où on est accompagné par une personne plus ancienne d'une communauté pour discerner ce que Dieu, si Dieu a un appel spécifique pour nous. Et c'était à l'âge de 17 ans que j'ai vécu cette année tout en continuant mon parcours d'études et tout. Et c'est quand le Seigneur m'a appelé, justement, juste après une période où je m'étais éloigné un petit peu de lui pendant 6 mois à peu près, où j'avais plongé à nouveau dans le monde. Et le Seigneur m'a appelé juste à la fin de cette période où j'ai pu réaliser qu'il ne m'appelait pas parce que j'étais extraordinaire, mais tout simplement parce qu'il m'aimait et qu'il me faisait miséricorde et qu'il m'appelait à faire miséricorde à mon tour. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que j'étais appelé par Dieu à entrer dans la communauté de vie, Shalom, qui est formée par des hommes et des femmes qui laissent tout dans le monde et pour vivre une vie missionnaire.
Très bien. C'est génial de voir un témoignage d'une personne qui a été rencontrée, qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu et qui donne sa vie et qui donne aujourd'hui sa vie pour le Christ. Et quel est le rôle finalement de l'Esprit Saint au milieu de tout ça, l'Esprit Saint que tes parents ont rencontré aussi? Quelle est la place de l'Esprit Saint dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu l'as vu aussi comme tes parents?
L'Esprit Saint, c'est, disons, comme un grand spot qui est braqué sur le visage de Dieu. Il nous montre le visage de Jésus. Il nous fait passer de la théorie à la rencontre, du discours à l'expérience. Donc, lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint, Jésus n'est plus un personnage du passé. L'Évangile n'est pas une lettre morte. L'Église n'est plus une institution caduque. Mais comme disait déjà un prêtre orthodoxe, avec l'Esprit Saint, l'Évangile est parole de vie. Jésus est vivant et ressuscité. L'Église est une communauté de chrétiens, une famille nouvelle. Et donc l'Esprit Saint, si Jésus nous demande d'être le sel de la terre, c'est parce que c'est l'Esprit Saint qui nous donne du sel. C'est lui le sel de l'âme. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, mais seul, nous le serons si nous avons du sel en nous. Et ce sel, ce goût, cette joie, ce bonheur, cette vie divine, c'est l'Esprit Saint qui nous donne. Et c'est merveilleux parce que nous pouvons peut-être nous réveiller un jour en n'ayant pas de force pour continuer à avancer, en étant fatigué, ou alors en ayant eu des moments très difficiles, il suffit de se poser et de demander à l'Esprit Saint de venir nous secouer, nous remettre debout. Et c'est impressionnant, il vient. Comme nous dit la séquence de Pentecôte, il est le Père des pauvres. Si nous reconnaissons notre pauvreté, nous n'avons qu'à vivre avec ce Père-là.
Alors, après avoir écouté son histoire, cette rencontre qui a changé sa vie, on vous propose de passer à un temps de prière, parce que ce moment qui a été vécu, ce n'est pas que quelque chose qui reste dans le passé, mais nous le vivons tous les jours, nous actualisons chaque jour cette rencontre avec l'amour de Dieu. Alors, Daniel, si tu veux bien nous partager de ce que tu as vécu et aussi nous faire prier en demandant cette grâce aujourd'hui.
Oui, chers amis, parce que le secret, Saint Augustin disait déjà, il ne suffit pas de savoir que Dieu est amour, il faut en faire l'expérience. Et à quoi ça sert de savoir tant de choses sur Dieu si ça reste des connaissances philosophiques? Il faut que cela change notre vie. Et d'ailleurs, en lisant une méditation de Saint Bernard, il disait que ceux qui manquent de foi, ils se mentent à eux-mêmes parce qu'ils ont peur de s'approcher de Dieu quelque part. Et que craignent ces gens de peu de foi, dit Saint Bernard? Que Dieu ne veuille pas pardonner leurs péchés, mais de ses propres mains, il les a cloués à la croix. Que craignent-ils donc encore? D'être eux-mêmes faibles et vulnérables? Mais Dieu connaît bien l'argile dont il nous a fait. De quoi ont-ils donc peur? D'être trop accoutumés au mal pour délier les chaînes de l'habitude? Mais le Seigneur a libéré ceux qui étaient dans les fers. Le Seigneur est le libérateur, il peut tout. Craignent-ils donc que Dieu, irrité par l'immensité de leurs fautes, hésite à leur tendre une main et venir à leur secours? Mais nous dit Saint Paul, où abonde le péché, la grâce surabonde. Alors, qu'avons-nous peur par rapport à cette expérience? Nous avons peut-être peur de l'inconnu, mais nous n'avons pas eu peur de faire tant de bêtises dans notre vie le moment venu. Pourquoi avoir peur de celui qui a versé son sang par amour pour nous? Aujourd'hui, c'est le jour pour vous qui nous écoutez de laisser une chance à l'Esprit Saint de vous visiter. Je vous invite, si vous le pouvez, à vous poser quelque part et prier avec nous. Laissez l'Esprit Saint de Dieu nous donner, nous montrer le visage de Jésus, nous montrer le véritable visage de Dieu qui est amour, patience et pardon, lent à la colère et plein d'amour pour ceux qui l'appellent. Il n'est pas un Dieu distant, c'est un Dieu qui s'est rendu proche des pécheurs. Jésus d'ailleurs était critiqué par les autorités religieuses de son époque parce qu'il mangeait avec les pécheurs. Jésus n'a jamais eu de problème avec les pécheurs. C'était plutôt avec ceux qui se croyaient justes qui lui ont donné du fil à retordre. Mais avec les pauvres, les pécheurs, ceux qui se reconnaissent affaiblis par tant de blessures, par tant de péchés, le Seigneur, il se sent comme qu'à l'aise chez lui. Il n'a pas attendu un palais pour le recevoir, pour venir au monde. Il est né dans une grotte. Alors, pourquoi il ne viendrait pas dans notre cœur tel qu'il est maintenant? Frères et sœurs, prions ensemble. Seigneur, nous te supplions, envoie sur nous ton Esprit Saint. Montre-nous combien tu nous aimes aujourd'hui même. Seigneur, notre cœur peut-être n'est pas propre ni brillant comme un palais de roi. Il est peut-être sale comme une grotte, comme celle de Bethléem. Mais nous osons croire que Marie est avec nous aussi, Joseph, et que tu es, Seigneur, présent dans notre pauvreté. Et même s'il n'y a pas de place pour te recevoir dans le monde, Seigneur, nous voulons te faire une place dans notre cœur. Envoie sur nous ton Esprit Saint afin que tout ce qui est ténèbre en nous devienne lumière. Tout ce qui est sale devienne propre. Tout ce qui est tristesse, solitude, blessure, soit touché par ton amour invincible. Seigneur, viens nous surprendre aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, surprends-nous maintenant, Seigneur, chacun et chacune qui nous écoute.
Seigneur, nous te supplions, toi qui es présent dans notre vie, d'envoyer ton Esprit Saint sur nous. Tu nous connais, Seigneur. Tu nous rejoins là où nous sommes. Tu nous as aimés lorsque nous étions pécheurs loin. Et nous voici, Seigneur, comme des pauvres. L'Esprit Saint est le Père des pauvres. Seigneur, nous te supplions de venir aujourd'hui nous donner cette rencontre personnelle avec toi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu connais nos souffrances, et nos souffrances sont comme des portes qui nous ouvrent à ton action. Viens passer, Seigneur, par ces brèches-là. Viens passer par ces brèches et viens nous combler de l'intérieur, car notre cœur ne se reposera pas tant qu'il n'est pas comblé de toi, de ta présence. Nous voulons prier aussi, Seigneur, pour ceux que nous aimons, ceux de notre entourage, ceux de notre famille, que, Seigneur, tu puisses aujourd'hui venir les visiter, ceux qui maintenant sont malades, qui sont dans l'hôpital et qui nous écoutent et qui veulent, Seigneur, cette expérience, cette rencontre. Nous te demandons de venir aujourd'hui visiter, Seigneur, des personnes qui sont dans la prison, qui sont tombées, qui ont péché. Seigneur, viens aujourd'hui. Tu es un expert en résurrection. Viens nous ressusciter aujourd'hui, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est sur toi. En toi, notre confiance. En toi, notre espérance, aujourd'hui.
Bien, Esprit Saint de Dieu, donne-nous la paix, Seigneur, la paix de ceux qui contemplent ton visage, comme nous dit la bénédiction d'Aaron, qui aimait tellement Saint François d'Assise, que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il apporte sa paix. Oui, Seigneur, cette paix qui vient de la contemplation de ton visage, révèle ton visage d'amour dans nos vies, Seigneur.
Amen. Merci. Merci, Daniel, d'être avec nous. Merci à tous nos auditeurs. Donc, nous avons rendez-vous dans 2 semaines pour notre émission avec un autre témoignage. Merci beaucoup de votre présence et on vous voit à très bientôt.